Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Vous croyez connaître la 5G ? Vous n'avez pas encore tout vu. Free Mobile a déployé cette semaine son réseau national 5G Standalone Access, que l'on pourrait qualifier de vrai 5G. Orange s'est senti obligé de réagir en annonçant également du nouveau pour la 5G Standalone. Alors la 5G va-t-elle enfin prendre son envol ? On va en discuter avec Christophe. Et dans le reste de l'actualité, les iPhone 16 sont maintenant disponibles, Apple a encore maille à partir avec la Commission européenne, et le protocole RCS fait des débuts timides dans iOS 18. Nous sommes le samedi 21 septembre, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. C'est la rentrée et ça se sent, la semaine a été très chargée. Une tonne de mises à jour lundi soir et une tonne de nouveaux produits vendredi. En attendant nos tests qui arriveront à partir de la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà consulter nos aperçus des iPhone 16 et des Apple Watch sur nos sites. Salut Christophe, ça va ?
Bonjour Stéphane. Oui, ça va, même si j'ai un peu l'impression de m'être fait avoir. Moi, on me demande de tester le RCS, alors que d'autres jouent avec des iPhone 16, des Apple Watch 10, des AirPods de 4e génération. L'impression de ne pas avoir tiré le gros lot. Mais ça va, toi ?
Désolé, oui. Ça va pas mal, ouais. Est-ce que l'installation de toutes les mises à jour s'est bien passée pour toi cette semaine ?
La 5G, c'est pas mal, mais la fibre optique, c'est encore mieux pour ce genre de tâches. Et oui, tout s'est bien passé jusqu'à présent.
Pas eu de bug, parce qu'on a vu que iPadOS 18 avait été retiré pour les iPads M4.
Oui, mais il faudra avoir aussi. J'ai pas d'iPhone 16, donc j'ai pas non plus d'iPad M4, donc j'ai pas de problème. Okay. J'ai une vie simple.
Très bien, bon, écoute. T'es modeste sur l'équipement alors. Le premier gros sujet de la semaine, c'est la 5G. Alors, Free a déployé la 5G Standalone Access sur les fréquences 3,5 GHz de son réseau à l'échelle nationale. On peut parler de vraie 5G, parce que la 5G SA utilise des infrastructures dédiées du cœur du réseau jusqu'au bout des antennes. Alors ça se traduit notamment par des débits plus élevés et une latence réduite. Orange s'est senti obligé de réagir en publiant dès le soir même un communiqué pour faire savoir qu'il avait utilisé la 5G SA dans le cadre des Jeux Olympiques, et qu'il lancera une box 5G SA en octobre. Alors qu'il n'y a pas de gros engouement autour de la 5G jusqu'à présent, est-ce que cette évolution va finalement faire prendre à la 5G son envol ?
Alors ça, c'est une bonne question. Le souci, c'est qu'en France, c'est mon opinion en tout cas, c'est qu'Orange a tué la 5G d'un point de vue commercial. Le réseau, il est plutôt là, mais pour avoir de la 5G, c'est chez Soch.
C'est toujours difficile à dire, chez
Soch. Oui, voilà. Il faut payer quand même 21 euros. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'Orange, par exemple, a une politique commerciale beaucoup plus agressive avec la 5G. Dans d'autres pays, j'ai regardé par exemple en Espagne, vous trouvez des forfaits quasiment deux fois moins chers avec la 5G. En 2024, la 5G devrait être fournie en standard sur les forfaits. Ce n'est pas la question du protocole, j'ai envie de dire, mais surtout de la quantité de données que vous mettez à disposition des utilisateurs. Donc, il y a déjà Orange qui a tout fait pour freiner d'un point de vue commercial la 5G en la révisant, en disant si vous la voulez, il faut payer cher.
Après, c'est vraiment les derniers à faire ça, hein, parce que même Free, maintenant, depuis cette semaine, a mis la 5G dans son forfait intermédiaire autour de 10 euros. Donc, il n'y a plus que Orange qui freine des quatre fers pour intégrer la 5G à ses forfaits abordables.
Oui, tout à fait, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que je m'acharne sur Orange. Hein, Orange reste quand même, malgré tout, l'opérateur numéro un, l'opérateur historique. Ouais. Celui qui doit avoir sans doute les meilleures installations 5G, même s'il y a peut-être débat avec Free, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais en plus, donc c'est vrai qu'en France, non seulement il y a ce blocage commercial qui tend à sauter malgré tout, mais en plus il y a eu de nombreuses polémiques lors de son lancement il y a quelques années. Alors il y a eu toute la controverse d'un point de vue écologique. Il y en a qui se sont amusés à mettre le feu à des antennes. Enfin bref, tout ça fait que la France et la 5G c'est compliqué. D'ailleurs, on a même eu des débats à la rédaction ces derniers jours à ce sujet. Je tairai les noms de Nicolas et de Félix, qui disent finalement la 5G, oui, je l'ai eu 2-3 mois avec Soch, ça change pas tant la vie que ça.
Bah, c'est pas seulement à la rédac, on l'a vu dans les commentaires aussi, la plupart des lecteurs, la 5G est offerte tout cet été chez Soch, et la plupart des lecteurs disent « Bon, bah, en fait, ça ne m'a pas donné envie de payer plus pour la 5G. »
Oui, parce que je pense qu'il faudrait effectivement se concentrer, comme je te disais, sur la quantité de data plus que sur le protocole. Mais malgré tout, si vous faites beaucoup de partage de connexion, vous voyez la différence entre la 5G et la 4G. Là où avec la 4G, pour avoir des débits et vraiment être tranquille, il faut avoir un bon signal. Normalement, avec la 5G, même avec un signal moyen, vous pouvez travailler dans d'excellentes conditions. C'est l'une des choses qui fait la différence. Après, comme tu l'expliquais, la 5G en est qu'à ses débuts. Alors, pour finir mon histoire sur la 5G, donc effectivement, après, il y a eu des Jeux Olympiques. Et donc là, Orange dit « Ah tiens, on va offrir la 5G à tout le monde ». Alors, comme vous le savez, ce n'était pas du tout une opération commerciale pour inciter les gens tout d'un coup à se mettre à la 5G. C'était surtout que 5G était l'opérateur
Orange
exclusif des Jeux Olympiques. Et il valait mieux que ça tienne. Et l'un des avantages de la 5G, c'est qu'une borne 5G peut accepter beaucoup plus de connexions qu'une borne 4G. Donc, pour éviter les saturations, c'était plutôt malin de faire ça.
Mmh. J'étais au JO cet été à Paris, et effectivement, donc connecté en 5G au réseau d'Orange, et la connexion était super. J'ai jamais eu de problème, ni de saturation, ni de débit faible. Vraiment, moi j'ai une super expérience par rapport à ça.
Et c'est vrai que, tu me dis ça, moi je me fais la réflexion, c'est dans les stades. Souvent, bah, par exemple, j'allais avoir un match de foot, à l'époque des réseaux 4G, c'était saturé.
Ouais, ouais.
Depuis qu'avec la 5G, ça, quand même ça passe nettement mieux, parce que c'est vrai que c'est assez fou, mais moi, je suis toujours étonné. Il y a des gens qui passent leur temps devant leur téléphone et envoyer des images et des vidéos, et ils oublient presque de regarder le match. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Bref. Alors, oui, c'est vrai que, techniquement parlant, on se rapproche effectivement d'ailleurs de ce qu'on peut appeler de la vraie 5G. Enfin, ça a toujours été comme ça dans l'histoire des télécoms. On se rappellera que la vraie 4G, c'était pas la première fois qu'on a vu le petit icône 4G apparaître sur un iPhone. C'est arrivé bien plus tard. C'est toujours aussi ça qu'il faut comprendre avec les normes. C'est quelque chose de très progressif. Et peut-être que la 5G des débuts, la différence est pas folle avec la 4G. C'est exactement la même histoire d'ailleurs entre la 3G, qu'on appelait la 3G+, et la 4G au début. Mais je pense que lorsque tout sera activé, notamment qu'on aura notamment un bien meilleur ping, et je pense que dans certains domaines d'application, même comme des choses comme les jeux, ça peut avoir son importance. Voilà, on aura un regard différent, en tout cas, je l'espère.
On va parler d'un sujet récurrent, c'est le DMA. Le DMA, Apple n'a pas fini d'entendre parler, puisque jeudi, la Commission européenne a ouvert deux procédures afin d'aider Apple à se conformer à des obligations. La première procédure concerne l'interopérabilité d'iOS avec les accessoires, comme les montres connectées, les écouteurs et les casques de réalité virtuelle. Bruxelles s'intéresse en particulier aux fonctionnalités de notification, de jumelage et de connectivité, donc entre le système et ces accessoires-là. Et la deuxième procédure a trait au processus mis en place par Apple pour traiter les demandes d'interopérabilité soumises par les développeurs pour iOS et iPadOS. La commission veut s'assurer que ce processus est, je cite, « transparent, rapide et équitable ». Ces deux procédures dureront 6 mois, après quoi la Commission européenne publiera un rapport préliminaire pour exposer ses conclusions et ses mesures envisagées afin que les tiers concernés puissent faire remonter leurs observations. D'après toi, ça peut déboucher sur quoi ces deux procédures, Christophe ?
Des procédures, des contre-rapports, des menaces d'attaque en justice, des amendes et plein de choses de ce genre-là. Non mais alors plus sérieusement, j'ai lu l'article de Florian, j'ai trouvé d'ailleurs très clair, hein, voilà, je tiens à le préciser, mais j'ai eu du mal quelque part à comprendre le nœud du problème. Alors je t'ai voir Anthony, je lui ai demandé une traduction concrète, on va dire. Enfin, ça me paraissait un petit peu lunaire, donc voilà, j'ai vraiment voulu être sûr de bien avoir compris. Donc, l'un des griefs de Bruxelles, c'est qu'il n'est pas aussi simple de jumeler des écouteurs de tierce partie en Bluetooth que des AirPods. Voilà, enfin, moi, sur mon bureau, j'ai des casques qui ne sont pas de marque Apple. Moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à les jumeler. Est-ce que c'est vraiment un problème que l'humanité se doit de résoudre en priorité ? J'ai des doutes, voilà. Alors Anthony, il a aussi pris l'exemple des montres. Il m'a dit, imagine, tu pourras répondre à un message avec ta Garmin. J'aurais répondu que sur une Garmin, la première chose que je fais, c'est que je coupe les notifications. L'écran étant rond, t'as pas envie de taper au... Enfin, voilà, le clavier, t'y penses même pas. Et qu'il n'y avait pas de micro sur ma montre. Donc, tout ça, ça me paraissait un peu what the fuck, pour parler un petit peu vulgairement. Donc, enfin, moi, dans cette histoire, ce qui me perturbe un petit peu, c'est le décalage qu'il y a quelque part entre la commission et le grand public. Si on demandait aux citoyens européens qu'est-ce qui cloche chez Apple, qu'est-ce qu'on peut améliorer, très franchement, je suis pas certain que ce point-là remonte énormément. Alors peut-être que il y a 2-3 fabricants qui pourraient dire que, mais voilà. Enfin, le Bluetooth, c'est quand même un protocole qui a quand même bien évolué ces derniers temps. Par contre, je suis certain qu'il y a énormément de citoyens européens qui pourraient dire non, mais attendez, le problème avec Apple, c'est que c'est cher. On en est bien conscient. Quand on constate, quand Apple annonce un produit. Par exemple, les nouveaux iPhones aux États-Unis et en Europe, bah, y a toujours cette taxe qui fait que... Je ne parle pas de la TVA, hein, qu'on soit d'accord. Il y a toujours ce truc-là qui fait qu'on a l'impression de payer un iPhone 20% plus cher en Europe qu'ailleurs. C'est vrai pour l'iPhone, c'est vrai pour énormément de produits high-tech. Et franchement, je pense que ce serait bien si l'Union européenne pouvait se pencher sur ce problème. Maintenant, vu la quantité de travail demandée par le régulateur, je me demande si Apple finira par dire « Ouais, mais attendez, il y a tout le travail avec le DMA, hein, ça nous occupe beaucoup de temps, ça coûte de l'argent, ils auront presque une excuse. »
Mais par rapport à ça, par rapport à la question du prix, est-ce que justement le fait de faciliter le fonctionnement, par exemple, d'une montre Samsung ou une montre Google sur iOS, ça mettrait un peu de concurrence sur l'Apple Watch, et est-ce que ça inciterait pas Apple du coup à baisser le prix de l'Apple Watch ou alors à innover un peu plus? C'est là, je pense, l'intention derrière tout ça, non?
Oui, peut-être, mais après, est-ce que c'est une volonté de l'Union européenne de casser ce lien d'exclusivité entre, on va dire, par exemple, entre les montres et les smartphones d'un même fabricant? Pourquoi pas? Alors, il y a le deuxième point. Alors ça, techniquement parlant, c'est vrai que c'est une révolution. Apple a été obligé de mettre en place un système permettant aux développeurs de demander d'accès à des fonctions ou à des composants. Donc concrètement, un éditeur peut demander à Apple, ben, voilà, je voudrais bien avoir accès à cette API privée ou à cet élément hardware qui n'est pas normalement accessible. C'était par exemple le cas encore avec la NFC. Donc Apple a mis en place toute une procédure, elle étudie la question... Elle est censée répondre par oui ou par non en fonction de la demande. Si la demande lui paraît, comment dire, un petit peu extravagante, elle peut répondre non. Et sinon, elle s'est engagée lorsqu'elle trouve une demande, on va dire,
pertinente.
Justifiée, pertinente. Elle s'engage donc à intégrer ça. Alors, ça peut prendre du temps et elle s'engage tous les 90 jours à fournir une réponse à l'éditeur qui en fait la demande. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Alors, je prends un exemple. Alors, c'est pas l'exemple le plus vendeur, mais a priori, un éditeur d'antivirus pourrait aller voir Apple en disant, bon, ben, moi, je vais faire mon antivirus sur iOS. Ben, je veux que mon application, elle soit capable de scanner l'intégralité du téléphone. Je pense d'ailleurs que ce cas devrait se produire. Je suis impatient de voir ce que ça va donner. Alors, tous ces mécanismes sont assez jeunes. Voilà. Donc, l'Union européenne veut s'assurer qu'ils sont bien en place et fonctionnent bien. Donc voilà, je pense que j'ai une petite... comment dire, au lieu de faire des rapports, on peut aussi soumettre à l'idée à l'Union européenne d'être modérateur sur les forums d'Apple avec les développeurs, comme ça ils pourraient prendre directement la température. ce serait très bien, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Moi, ce qui me fait peur dans ces histoires, et même si, pourquoi pas à la limite, c'est l'incroyable niveau de complexité qu'on est en train de mettre en œuvre à tous les niveaux. Très franchement, je peux comprendre qu'un avocat d'Apple, lorsqu'il a entendu parler d'Apple Intelligence, il ait dit au dirigeant d'Apple, non mais alors, attendez deux secondes, hein, on va pas prendre de risque, on va vérifier tout ça, et on va prendre notre temps pour lancer ça en Europe, histoire de pas se retrouver avec une chose à laquelle on n'aurait pas pensé. Donc là, on est en train d'ajouter de la complexité, de la crainte, d'ailleurs l'Union européenne s'en était félicitée, des amendes parfois. Mais D'un autre côté, je me demande si on n'est pas aussi en train de tuer l'innovation dans l'Union européenne. Enfin voilà, enfin, moi j'entendais des gens dans le domaine de l'intelligence artificielle qui disaient que dès qu'ils atteignaient une certaine taille, ils fonçaient directement aux États-Unis. Alors, c'est vrai que c'est toujours plus facile de se financer lorsqu'on travaille dans ces domaines-là aux États-Unis qu'en Europe. Mais si en plus l'aspect réglementaire restreint les choses, je m'inquiète un peu, on va dire.
On termine le tour de l'actu avec une nouveauté liée à iOS 18, qui fait des débuts plutôt timides. Je veux parler de RCS, le protocole qui doit remplacer les SMS et les MMS. Alors après un intense lobbying de la part de Google, Apple a finalement intégré ce standard dans iOS 18, mais ce n'est pas pour autant qu'il est disponible pour tout le monde. En France, seul SFR est compatible pour l'instant. Les autres opérateurs y travaillent, mais sans donner de date. Et en plus de ça, les messages RCS ne sont pas chiffrés de bout en bout, alors que cette protection est de plus en plus courante dans les autres messageries. Mais Apple, Google et la GSMA, donc la GSMA c'est l'organisation qui rassemble les opérateurs du monde entier, planchent sur une solution de chiffrement de bout en bout multiplateforme. Christophe, je crois que tu es chez un opérateur compatible avec RCS. Est-ce que tu as essayé d'envoyer ces nouvelles bulles vertes ?
Non, je le confessais. mais alors... Pourquoi s'embêter alors que WhatsApp existe ? C'est ça la vraie question. On peut penser tout le bien ou tout le mal que l'on veut de cette application. Voilà, j'ai regardé les chiffres. Elle équipe 70% des smartphones en France, 80% des smartphones en Allemagne et en Suisse. Enfin, c'est devenu un standard de facto. Alors, franchement, j'ai l'impression que cette histoire de RCS est surtout un problème, c'est davantage un problème américain qu'un problème européen. WhatsApp y est moins répandu et arrivé plus tardivement sur le marché et voilà. Et donc là, je peux comprendre que l'on cherche à proposer une solution qui permette de faciliter la communication entre les smartphones sous Android et les iPhones. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, c'est quand même malgré tout une très bonne chose, surtout quand le chiffrement de bout en bout sera activé. Parce que voilà, on quand même envoyait un SMS en. Enfin, on a l'impression, mais c'est, ça me fait un petit peu penser. C'est un peu la même chose avec le mail. Hein. C'est qu'on a eu le protocole POP, on a eu le protocole IMAP, et puis là, tout d'un coup, au lieu d'avancer, les choses sont figées dans le temps. Et voilà, et le SMS.
Il y a JMAP qui essaye d'exister, mais bon, on voit bien que c'est dur, ça prend pas. Ouais.
Oui, bah j'aurais. D'ailleurs, oui, enfin, ça aurait été. Enfin, quitte à ce qu'Apple, Apple aurait été génial, ça aurait dit bon, alors pour la messagerie, histoire de se mettre, on va dire, à l'air du temps, on adopte le RCS pour les messages et pour le mail, ben voilà, on vous propose JMAP. Et c'est franchement dommage parce que bon, il y a de nouveaux iPhones sont arrivés, on va parler d'autonomie. Voilà, ben le protocole JMAP est quand même beaucoup plus économe que le protocole IMAP et ça aurait permis de gagner quelques dizaines de minutes d'autonomie. Mais bon.
Eh bien, écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Bon week-end à tous.
Et puis, si vous appréciez Sortie de Veille, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify ou n'importe quelle autre plateforme. Salut à tous, bon week-end.